Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Lorsque je rentre dans une salle de théâtre, les battements de mon cœur s'accélèrent. J'ignore ce qui va se passer, mais je sais que quelque chose m'attend. Je serai bousculée, séduite, inquiète, surprise et déplacée. Je vais au théâtre comme je vais à une fête pour exister à pleine puissance pendant un temps donné et avec d'autres que moi. Le théâtre est une fête, ce n'est pas une formule, c'est une réalité historique et artistique. Les formes qu'emprunte cette fête sont diverses, mais son but est toujours le même, créer les conditions de la rencontre entre l'œuvre et le spectateur. À quoi ressemble cette fête ? Nous ouvrons aujourd'hui un autre chapitre d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement de l'art vivant qui rend vivant celles et ceux qui s'en approchent. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Notre voyage théâtral débute en Grèce.
Car au départ était le bouc.
Le bouc, il y a 20 siècles de cela, avait en Grèce un chant mélodieux et une existence pourrie. La seule utilité qu'on ait trouvée à l'animal, c'est de s'en servir comme objet de sacrifice.
Non, c'est un beau sacrifice qu'on va lui faire. C'est pas un enterrement de seconde zone au bord d'une nationale un jour de semaine pluvieux. Là, on fait ça en plein air, les premiers jours du printemps, quand l'hiver rigoureux est passé et que la nature et la vie s'éveillent alentour.
On fait ça pour la fête de Dionysos.
Et Dionysos, excusez du peu, c'est pas le premier dieu venu. Il est à part, Dionysos.
On l'aime, Dionysos.
On l'adore, Dionysos.
Déjà, il est moitié homme, moitié dieu. Ça rapproche, ça crée des liens.
Ensuite, il vit au milieu des humains. Il n'est pas retranché dans son range, dans les nuages, avec les autres dieux.
Et puis il picole, hein, et sec.
Alors monsieur ne déguste pas que du nectar, liqueur des dieux. Monsieur lampe du vin et du bon, est normal, c'est le dieu de la vigne.
Et puis ce qu'il veut, c'est que tous les humains fassent comme lui, c'est-à-dire la bringue et la nouba jusqu'à pas d'heure.
Et oui, c'est vrai, au théâtre, tout est parti comme ça, d'un bouc, de la Grèce et de Dionysos, comme le rappelait cet été à Avignon dans une conférence théâtrale décoiffante intitulée « Du bouc à l'espace vide » de l'auteur et acteur Julien Saada. C'est un clin d'œil que nous lui adressons avec cet extrait que nous avons un petit peu recoupé. Bonjour Serge Saada.
Bonjour.
Julien Saada n'est pas votre frère, ni même votre cousin.
Non,
il se trouve qu'il laboure à sa manière, un peu comme vous. Les mêmes territoires, vous qui êtes dramaturge, enseignant à Sciences Po et à Paris 3 au département de médiation culturelle, vous qui êtes aussi auteur d'un livre paru aux éditions de la Tribu avec un titre qui nous intéresse, « Et si on partageait la culture ?» À vos côtés, Jean-Christophe Meurice, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène, vous proposez très bientôt au Théâtre des Bouffes du Nord la reprise de votre dernière création « Jusque dans vos bras », création de la troupe des Chiens de Navarre, création dont la fête n'est pas absente, même si elle a un goût de fête macabre. Alors, entre vous deux, il y a ce mot de fête qui est comme un fil tendu sur lequel j'aimerais que vous marchiez l'un vers l'autre avec une première question. Dans quelle mesure le théâtre du XXIe siècle est-il encore fidèle à cette origine grecque des fêtes de Dionysos ? Serge Saada.
Ah oui. Alors, déjà, moi, je trouve que dans le théâtre du XXe siècle, il y a de fait une volonté de faire participer le public. Mais cette participation qui a toujours existé dans l'histoire du théâtre, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire que c'est une répétition de la participation, c'est d'en voir les motivations. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le théâtre est devenu trop chargé, sans doute, de conventions, et on voulait que le public participe. Après, il y a cette idée qui me semble assez intéressante, c'est est-ce que le public, quand il va au théâtre, quand il va dans un acte participatif, quand on l'invite à monter sur scène, à boire avec les comédiens, quand on distribue, comme dans le théâtre de Vincent McCain, des bières non alcoolisées au public, est-ce que ce public est toujours prêt à participer ? Est-ce que la participation, finalement, c'est pas quelque chose qui est aussi vécu comme une convention? Et là, je pense toujours aux publics les plus vulnérables avec lesquels je travaille souvent au sein de l'Association nationale Culture du Cœur. Ce sont des publics qui sont pas forcément contre l'idée de faire la fête avec les autres, mais ce banquet peut être interdit parce que malheureusement le théâtre est encore chargé beaucoup de conventions qui empêchent que cette fête soit collective. Mais il y a toujours un petit fêtard en nous, un petit lutin qui est fêtard, qui est celui qui vit l'acte théâtral comme une fête au présent, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire comme un acte où il y a une présence des comédiens sur le plateau et une présence des publics. Et la fête reposera sur une sorte de balancement entre l'individuel, la personne, et le collectif. Cette douce chaleur qui peut se passer dans les spectacles des Chiens de Navarre à certains moments, où on est comme happé par le collectif, parce qu'il y a trop de choses qui se passent, il y a une invitation au partage qui se passe, et en même temps on est renvoyé à l'individuel. On retrouve ça aussi dans d'autres compagnies comme les 26 000 couverts, et je pense au bal des 26 000 couverts, où on nous invite à danser, on est avec des amis, et on se demande si nos amis sont pas complices de la danse aussi à un moment. On est dans le doute, on est un petit peu perdu, et je pense qu'il y a des compagnies aujourd'hui, comme dans toute l'histoire du théâtre, hein, il faut pas se leurrer, qui jouent avec cette convention, qui est toujours assez savoureuse. Et de savoir si c'était prévu de nous donner cette place ou si c'était pas prévu.
Alors Jean-Christophe Meurice, est-ce qu'il est prévu chez vous, dans la troupe des Chiens de Navarre, de donner aux spectateurs une place particulière et de l'associer à une forme de fête? Et si je vous pose cette question et si vous êtes ici à ces micros, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'avec les Chiens de Navarre, la compagnie que vous dirigez, dont vous faites partie et dont vous êtes le meneur, il y a cette notion de fête. Elle peut être noire, elle peut être carnavalesque, elle peut être parfois agressive, très joyeuse, mais elle est constante. C'est une sorte de, pas de marque de fabrique, mais en tout cas c'est un signal que vous envoyez à chaque représentation vers le public.
Oui, ça c'est sûr que c'est un désir, une volonté quoi. Mais j'aime bien la fête du présent. C'est obligatoirement nous dans la compagnie, c'est ce vivant-là. On ne dit-on pas spectacle vivant là. Pour le coup, ça c'est une chose qui est très importante parce que la notion de fête, c'est plutôt la fête des sens, plutôt la fête des corps. Parce que pour moi, la notion de fête, c'est pas une fête. Pour moi, c'est quand on s'abandonne, c'est quand on danse, c'est quand on s'oublie d'une certaine manière. C'est souvent même on est un petit peu jaloux à chaque fois que je vais voir un concert de musique et que le musicien ou le groupe est attendu, tout le monde commence à taper dans les mains, à hurler, tout ça. On se demande pourquoi il n'y a pas ça au théâtre. Enfin, on rêverait de ça, c'est-à-dire que...
Mais faut pas être à ce point-là inconscient de ce que vous faites, Jean-Christophe Meurice, parce que s'il y a bien des spectacles où on s'abandonne dans le rire, c'est devant les spectacles des Chiens de Navarre.
Oui, mais c'est l'attente, le fait d'être dans l'amusement, la joie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un appétit quand on vient voir nos spectacles, une envie, mais voilà, parce que la musique participe vraiment au fait de l'abandon, l'abandon des corps, la fête des corps. Là, c'est plutôt la fête des sens, la fête du présent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est effectivement c'est cet inconnu-là. Et effectivement, le public pour nous, on joue avec lui. Il est aussi acteur sur le plateau. On s'adresse à lui. Enfin, c'est vu comme le monde. Le quatrième mur, elle n'est plus là. On incarne, on désincarne, on le met en position d'intranquillité, qui fait que ça fait, il y a quelque chose de joyeux là-dedans, de festif, même si ce qu'on raconte peut être très triste ou terrible sur le plateau.
Je voudrais revenir quand même à cette origine qui est le fondement du théâtre, qui naît en Grèce. Euripide a écrit des textes là-dessus, des pièces de théâtre, et il n'est pas le seul. Est-ce que le théâtre est toujours connecté à ce qui est sa matrice, qui est cette fête de Dionysos?
C'est difficile qu'ils soient totalement connectés parce que les spectateurs sont marqués par plein de pratiques qui parfois les empêchent de participer totalement à la fête. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une retenue de la part des spectateurs d'aujourd'hui qui ont pris l'habitude de regarder quelque chose sans être vu. Et donc cette fête sera toujours plus ou moins vécue par une convention. Un comédien qui regarde fixement un acteur, je suis allé au théâtre régulièrement ces derniers temps, et il y a Nicolas Bouchaud qui est sorti de scène, qui a regardé ma femme fixement. Il l'a regardée, et puis après, il ne la regardait plus, tout en la regardant. C'est-à-dire, il était rattrapé par la convention. Donc l'invitation, on pourrait s'allonger sur les genoux du spectateur, qui aurait un courant de 1000 volts qui nous séparerait de l'acteur et du spectateur, parce qu'il y a un accord consenti de participer à ça, mais il y a quelque chose qui sépare, et c'est la convention théâtrale qui est toujours là.
Bah, parce qu'il y a des gens qui sont assis, puis qui regardent. Enfin, dans le sens où, parce que ça a été construit comme ça, enfin, je sais pas, hein, je réfléchis, mais je me dis que c'est le lieu pour regarder. Donc c'est quand même regarder, c'est pas obligatoirement être dans un esprit à ce point acteur. Alors, on est là pour regarder, éventuellement avoir des visions, Ce serait formidable. Enfin, c'est formidable, ça. Mais c'est compliqué parce que, pour le coup, c'est une position très particulière. Le spectateur.
Vous citez le comédien Nicolas Bouchaud, Serge Saada. On pourrait ici convoquer, par exemple, la création de Bartabas au fort d'Aubervilliers, sa dernière création Ex Anima, qui, comme les autres, se déroule dans un espace circulaire, parce que pour Bartabas, l'espace circulaire est un espace de communion. Alors, est-ce que là, on est plus dans l'idée de la fête que quand on est dans une scène comme d'habitude dans le théâtre, c'est-à-dire avec un plateau devant nous, les spectateurs assis sur les gradins et cette projection de l'un vers l'autre, mais sans ce que Bartabas nomme la communion, le cercle.
Peut-être que le cercle y contribue. Je ne sais pas ce qu'on pense, Jean-Christophe, mais...
Oui, parce que chez un spectateur, quand il vient... Enfin bon, c'est un peu théorique de dire tout ça, mais un spectateur, quand il vient, il y a aussi cette inquiétude du miroir qu'on va lui tendre. Enfin, vous voyez, je continue de manière un peu obsessionnelle sur la musique. La musique, elle se reçoit comme une fête. Le théâtre, il y a quand même cette angoisse, cette inquiétude. Quel miroir on va nous tendre ? Donc, oui, une fête, mais qui peut mal se passer, quoi, quand même.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Nous aurons peut-être la réponse à cette question en écoutant l'archive qui va suivre Jean-Christophe Meurice. Ce sont dates de 2002. Clara Acker, auteure d'ouvrages sur le dionysisme, s'expliquait au micro de Michel Cazenave sur ce culte pas si simple de Dionysos. Je vous propose de l'écouter.
La caractéristique la plus gênante pour les chercheurs du culte de Dionysos a été sans doute de tout temps l'orgiasme, la célébration du mystère dionysiaque qui paraissait contredire de façon scandaleuse la conception grecque classique d'une limite très nette entre humanité et divinité. Or, la transe, justement, implique la rupture momentanée de ces limites pour nous parler de la rencontre possible entre humain et divin par une expérience mystique touchant corps et âme.
Et c'est peut-être la transe la réponse. Est-ce qu'il faut mettre le spectateur en état de transe, Serge Saada ?
Il y a quelque chose de très intéressant dans ses propos, c'est-à-dire qu'on est relié à quelque chose d'invisible qui nous dépasse.
Oui.
Et cette chose d'invisible qui nous dépasse, peut-être dans notre société, on a peur de se laisser totalement dessaisir par cette chose. Nietzsche parle du dessaisissement de soi, quelqu'un qui se laisse aller à une certaine ferveur, d'ailleurs le mot est intéressant, quelqu'un qui se laisse aller. Peut-être qu'on a plus de mal à se laisser aller, c'est pas sûr. Et là où c'est très intéressant, c'est que on retrouve cette notion chez beaucoup d'artistes. Quand Mnouchkine dit « ce n'est pas nous qui portons le masque, c'est le masque qui nous porte ». Quand un musicien comme Renaud Clémenceau dit « je suis joué par la musique ». Je ne joue pas la musique. Cette capacité d'accueillir quelque chose qui nous dépasse, quand les Beatles disent « let it be », laissez faire, laissez aller. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans la pop musique. Grotowski, qui est un grand théoricien du théâtre polonais, disait « Mick Jagger, c'est un clown électrocuté ». C'est quelqu'un qui sait quelque part laisser aller à la fête. Tout cela se rejoint un petit peu par analogie. Sommes-nous prêts à prendre part à la fête ou pas ? Au théâtre, c'est aussi être prêt à prendre part. Il y a une chose qu'a dit Jean-Christophe qui est importante tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes en mouvement que nous participons plus. On peut être en mouvement et beaucoup participer, mais on peut être en mouvement et se déplacer avec sa petite bulle protectrice de spectateur qui se dit « je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui va advenir, je ne connais pas les règles du jeu, donc je ne peux pas participer à la fête. » Voilà. Et dans ce qu'elle dit, il y a quelque chose de fondamental, c'est que pourquoi on s'est éloigné un petit peu de la fête athénienne ? On s'en est éloigné parce que d'une certaine façon, on s'est éloigné du sacré. En disant le mot sacré, on peut faire un théâtre sacré qui ne soit pas du tout religieux par excellence. Voilà.
Oui, alors justement, Jean-Christophe Meurice, je voudrais qu'on continue sur cette idée du sacré. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez le public quand, par exemple, il entre dans la salle de théâtre et que la première image qu'il voit dans un de vos précédents spectacles, c'est un acteur crucifié sur une croix et totalement sanguinolent ? Est-ce que vous cherchez à provoquer quelque chose du côté, justement, du sacré, du religieux ? Quel rituel vous mettez en place à ce moment-là ? Parce que c'est quand même quelque chose de l'ordre d'un rituel qui peut se mettre en place.
Ouais, mais dans ce cas, c'était par rapport au spectacle Les Armoires Normandes, qui voulait représenter un peu l'intimité amoureuse. Et donc, on avait envie de commencer par la figure de l'amour, qui était celle du Christ. Donc, c'est plein de manières de provoquer déjà quelque chose, parce que il y a ça dans le fait aussi que moi j'aime bien, alors en même temps au dernier spectacle c'est pas le cas, mais moi j'aime bien que quand les spectateurs entrent dans la salle, il se passe déjà quelque chose, qu'ils soient pris déjà par quelque chose de vivant, qu'ils se posent pas de questions, tiens on s'assoit, t'as vu la scénographie, on lit le programme, tout ça, qui déjà prépare un peu le spectateur à être dans une position de l'idée, logos, non, tout de suite, on prépare un petit peu cette, comme vous dites, cette transe, pourquoi pas, cette émotion. Ouais, ces émotions-là, on le prépare à ça et tout de suite il doit être pris, quoi. Moi, ça m'angoisse toujours en tant que spectateur d'avoir 10 minutes pour moi, le temps d'apprécier l'espace. Je préfère être tout de suite pris par quelque chose, un acteur.
Pourquoi ? Parce que c'est mortifère pour vous, ce temps-là.
Ouais, bah, moi je me bats avec tout ce qui peut être effectivement pas vivant en théâtre. C'est-à-dire refaire, hein, parce qu'on sait bien que grand-père Jouvet disait le théâtre c'est l'art de refaire, mais quand il le disait, il avait raison sans doute, parce que c'est l'art de refaire la même chose tous les soirs et devant des gens, hein, on n'est pas au cinéma. Donc ça là-dessus il a raison, mais disons que c'est assez angoissant. Donc c'est pour ça que effectivement nous notre transe, c'est pouvoir avoir cette part d'inconnu tous les soirs, c'est-à-dire d'improviser, de pas savoir ce qu'on va se dire, parce que ça se crée déjà avec soi-même, ça se crée avec son partenaire et ça va se créer avec le public. Donc là il va avoir quelque chose au-delà de ce qu'on raconte. Au-delà des thématiques, des histoires qu'on raconte, déjà il y a ce vivant-là, ce présent-là, parce que ce présent-là, il faut bien le trouver, quoi, qui se crée. Donc ça peut créer du rire, de l'émotion, enfin du rire hein, dans notre cas quand même.
Par rapport à ce que dit Jean-Christophe, je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est cette tendance que nous avons à vouloir donner du sens aux choses. Alors peut-être qu'il y a un sens plus large qui est de l'ordre du ressenti, des émotions, et tout de suite cette posture du spectateur qui se dit je vais comprendre, je ne vais pas comprendre, etc. Alors que la perplexité, c'est une émotion.
Mais il a été un peu, enfin sans dire il, ça, mais le théâtre un peu conditionné comme ça, parce que quand même, il a vite été rattrapé par la littérature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, la chose quand j'étais plus jeune qui me dérangeait, c'est quand je voyais mes camarades d'école qui disaient, quand ils avaient envie de faire du théâtre entre eux, ils disaient, qu'est-ce qu'on monte comme texte ? Et moi, ça a été déjà un premier révélateur. Je me disais, mais pourquoi avoir besoin de monter de la littérature pour pouvoir exprimer une nécessité ? Déjà, qu'est-ce qu'on a envie de raconter ? Donc là, peut-être, on rejoint quelque chose déjà un peu plus de l'ordre de la transe, peut-être. C'est-à-dire que obligatoirement, on se met nous-mêmes sur nos propres nécessités, sur nos propres désirs, nos propres colères, nos propres révoltes, donc notre propre rire. Parce que c'est vrai que je l'ai pas assez. Peut-être que il est important de le dire chez nous. Oui, la transe, c'est plutôt la notion de rire.
Il faut le dire quand même, Jean-Christophe Meurice, on rit beaucoup.
On rit beaucoup, ouais.
Enfin, c'est quelque chose que, et on rit, je crois qu'on rit aussi intelligemment, ce qui est plutôt une bonne chose.
Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire qu'on rit pas bêtement, que c'est pas un rire, c'est à la fois un rire de réaction, mais c'est aussi un rire de compréhension. Ouais. C'est un peu ça que ça veut dire. Moi, je ne voudrais pas lâcher mon mot de fête dans cette émission, pardonnez-moi. Et je voudrais tenter de faire un raccord entre ce mot et un autre mot qui colle au théâtre et avec lequel le théâtre a parfois bien du mal, qui est le mot de populaire. Et je voudrais qu'on passe par une autre archive. C'est un échange qui avait lieu, un débat qui avait lieu en 1996 à la radio. D'ailleurs, c'est pas par hasard, ça se passait à la Fête de l'Humanité. Et c'est Hélène Cixous qui s'exprimait sur ce mot de populaire.
Populaire, moi je dirais que c'est... Je n'ai jamais pensé que ça. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec Ariane Nouchkine. C'est, si je peux me permettre de dire ça, ambitieux normalement, idéalement. C'est idéaliste. Je ne peux pas imaginer, par exemple, que populaire soit repoussé vers quelque chose de vulgaire ou de bas. Au contraire, c'est élevé, c'est le plus élevé possible. C'est le théâtre le plus exigeant possible. Et c'est ça qui est beau. C'est que, justement, on a l'habitude de diviser. On va dire le peuple, bon, et le pouvoir. Mais en réalité, le théâtre, c'est le pouvoir du peuple. C'est du peuple, en tant, justement, que grand, en tant que capable de la réflexion et de l'engagement les plus élevés, les plus nobles. Et d'ailleurs, le répertoire du théâtre dit populaire, c'est justement le répertoire le plus difficile et qui dit que tout être humain qui s'engage sur la scène du théâtre s'engage justement dans l'au-dessus, dans la hauteur, dans une sorte de familiarité avec le sublime. C'est le sublime familier. Et j'avais envie de dire qu'au fond, si j'avais donné une définition aujourd'hui du théâtre populaire simplement pour déplacer... Je dirais que c'est le théâtre du respect, que justement c'est le théâtre au sens propre du mot, hein, c'est le théâtre qui sait regarder, et qui respecte le plus risqué dans le destin humain, toujours.
Alors, elle dit beaucoup de choses, Hélène Cixous, mais elle en dit une qui m'intéresse, parmi les autres. Elle dit le théâtre, c'est le pouvoir du peuple. Est-ce que la fête, c'est une façon de donner le pouvoir au peuple sur la scène du théâtre?
En tout Serge cas, Sanda. Pas toujours. Il y a des pointes pendant les siècles romains où il y a 177 jours de fête dans l'année. Et on pense, c'est une hypothèse, que ces jours de fête sont faits aussi pour que le peuple ne pense pas à la révolution, justement. Donc ce n'est pas forcément avoir une emprise sur le peuple. Après, moi j'ai toujours du mal à définir ce qui est populaire. Travaillant avec des publics vulnérables quelquefois, si on leur demande ce qui est populaire, étant dans des conditions difficiles de vie, ces publics vont parler de personnes populaires parce que identifiées. Parce qu'identifiable. Fabrice Lucchini est populaire, d'une certaine façon. Après, ce qui est très intéressant, c'est quand une forme devient populaire, quand une forme convoque tout le monde au même instant. On retrouve dans Les Chiens de Navarre des figures qui sont très profondes, mais qui, en une demi-seconde, nous convoquent tous immédiatement sur une émotion qui n'est pas la même, mais qui pourrait nous rappeler certaines émotions qu'on retrouve au cirque. Quand Joanne Le Guilherme, qui est artiste de cirque, jongle avec un sabre, je ne vais pas intellectualiser le fait que le sabre peut lui tomber sur la tête ou pas. Il y a une forme de démocratie du regard à ce moment-là, c'est-à-dire de démocratie du regard et de l'émotion. Est-ce que ça tombe ou est-ce que ça ne tombe pas? Après, on peut intellectualiser sur comment l'a-t-il jeté, le hachoir en l'air, comment il l'a fait. Et il y a certaines formes, en tout cas dans les armoires normandes, les chiens de Navarre, il y a des formes... Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, cette arrivée de quelqu'un encore sanguinolent. Mais je me suis dit, ça m'a créé une émotion qui est celle de la vue du sang, tout simplement. Oui. Et je pense que cette vue du sang...
Vous êtes hémophile.
Voilà. J'ai vu trop de films sur les vampires, etc. Mais cette émotion, à mon avis, elle n'est peut-être pas la même si on l'exprime, mais elle est vécue avec une même communauté. Elle fait communauté à ce moment-là. La forme est simple et elle nous amène peut-être à dire autre chose.
Mais de la même manière, Jean-Christophe Meurice, pour prolonger ce que dit Serge Saada, lorsque vous évoquez, vous l'avez fait plus d'une fois, des banquets familiaux, ou des banquets amicaux qui tournent mal sur la scène des théâtres, oui. des grands repas.
Oui.
Ça a été votre spectacle inaugural, hein, c'était la raclette.
Oui.
Est-ce que c'est une façon, effectivement, de faire du spectateur un familier plutôt qu'un étranger? Et donc de faire de lui quelqu'un qui va se sentir à l'aise, tout en étant assez perturbé, mais qui quand même est face à quelque chose qu'il maîtrise, qu'il connaît, qui fait partie de son quotidien, et de le ferrer d'une certaine manière?
Oui, sans doute, mais je ne suis pas sûr que ce soit obligatoirement la notion de banquet ou de table qui rend cette familiarité-là. Je pense que c'est parce que grâce aux acteurs, grâce à quelque chose qui est une forme de chance, parce que la popularité, je suis d'accord avec Cixous quand elle dit que c'est une ambition, mais c'est aussi une chance. Ça, voilà, c'est une rencontre, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas si ça va devenir populaire ou pas. Mais en tout cas, avec les acteurs des chiens, ça devient des... Souvent, je dis, c'est des gens aujourd'hui qui parlent des problèmes d'aujourd'hui. Donc, il y a ce miroir-là qui fait que tout d'un coup, on s'y retrouve, on s'y projette. Mais je ne sais pas si c'est un dispositif, quand on parle de banquet ou de tablé, qui rend... Parce qu'en plus, c'est un dispositif, je crois, assez vieux comme le monde, hein, le banquet ou la tablée.
Mais que vous avez remis au goût du jour. Hein.
Vous trouvez?
Oui.
Mais je pense que c'est plutôt les acteurs qui parlent, qui créent comme ça une familiarité, on s'y reconnaît. Même si quand même, il faut préciser que le travail des chiens navarres, c'est un miroir d'aujourd'hui, mais un miroir déformé.
Elle employait, Hélène Cixous, dans l'archive que nous avons entendu, des mots qui sont très beaux. Elle parle de hauteur, de sublime, de respect, d'exigence, d'ambition, de risque. Toutes sortes de finalités vers lesquelles on a envie de tendre. Et en même temps, on se dit que si le théâtre, peut-être, à un moment donné... a perdu son côté joyeux ou son côté festif parce qu'il s'est figé lui-même dans toutes ces promesses derrière lesquelles il court. Il est peut-être aussi corseté par des héritages, par exemple celui du 17e, par l'héritage du répertoire. Est-ce que ça l'a pas coupé aussi de la notion de fête, le théâtre?
C'est l'idée que est-ce qu'un spectateur peut se vider de toute référence quand il rentre dans une salle de spectacle? Est-ce qu'il va pas immédiatement faire des comparaisons, même des spectacles qu'il n'aura pas vus parce qu'il y a un héritage comme ça diffus, une mémoire collective du théâtre? Est-ce qu'on peut la dépasser? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives, hein, d'artistes qui voulaient retrouver l'efficacité des scènes de musique, hein, tout simplement, de la culture populaire. On parlait tout à l'heure du quatrième mur, quand on le casse, ce mur invisible qui sépare les spectateurs de la scène. une belle image, c'est le chanteur de rock qui se laisse tomber sur son public et qui casse le quatrième mur, que ce soit Jim Morrison ou Freddie Mercury, ou peu importe, qui se font porter par leur public. Et là, il y a quelque chose qui nous renvoie au rituel, c'est le mot idole. C'est une idole que l'on porte. Mais cette idole, elle est tellement sacrée, elle est tellement portée haut, qu'il y a aussi ce courant qui nous sépare de cette idole aussi. Pour être vraiment populaire, il faudrait qu'on rejoigne une notion assez simple, celle de proximité. De proximité avec les publics, que les publics se sentent à l'aise de participer à quelque chose et ne se sentent pas à vue quand, dans une représentation, on va leur foncer dessus ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a des tics aussi de la mise en scène qui, en voulant provoquer quelque chose, ne font que renforcer la convention.
Non, mais
Jean-Christophe
Maurice. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose dans le théâtre qui fait que quand on. Il y a quelque chose de sérieux, quoi, derrière ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'on peut aller au théâtre, qu'il va falloir s'habiller. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
Vous croyez qu'on en est encore là, Jean-Christophe Maurice? Il me semble qu'on voit quand même en jean, t-shirt, basket. C'est plutôt ça qu'on voit d'ailleurs. C'est pas l'opéra. Hein.
Par rapport à ce que dit Jean-Christophe, ce sont les plus habitués qui sont les plus détendus, qui s'autorisent à être.
Et en plus, c'est une image. C'est une image, bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, quoique ça pourrait être bien qu'on vienne en nœud papillon et tout ça. Mais quand même, peut-être que je me trompe, mais je pense quand même encore que pas mal. C'est pas l'opéra, mais c'est la sortie. C'est la sortie un peu guindée. Par exemple, une fois, moi, j'ai été fasciné par une représentation à Londres, au Globe, de Shakespeare. Ça n'a rien à... Déjà, l'attitude des spectateurs qui arrivent quand même à 1h du matin. Donc, c'était pour voir une pièce de Shakespeare. Ils arrivent 1h du matin. Ils sont déjà quand même pas mal ivres. Et c'est pas mal, quoi. Ils arrivent, comme dans un concert, ils gueulent. Ils attendent les premiers acteurs qui arrivent au milieu d'eux. Et ils arrivent au milieu d'eux. Et là, ça hurle, ça se chevauche, ça se prend par le coude. Ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est
une autre culture,
une autre éducation. Et vous voyez, je pense que pour certains Anglais, aller au théâtre, c'est pas comme on peut l'avoir en France, peut-être plus maintenant, mais comme ça l'a été. Donc, moi, je pense qu'on souffre encore, je reviens peut-être de manière encore, on souffre un peu de trop, peut-être, d'embourgeoisement, de littérature, de quelque chose qui, effectivement, ne nous appartient pas. Et donc, on hésite à aller voir du théâtre parce que c'est la vision de ça.
Quoi qu'il en soit, il a été majoritairement très bavard, le théâtre. C'est avec l'électricité, quand on peut faire le noir dans la salle, que va se créer cette fixation du spectateur qui est là pour regarder à travers une boîte. Mais majoritairement, si on regarde l'histoire, les 25 siècles d'histoire de théâtre, majoritairement, c'est un théâtre qui est bavard, où on demande aux gens de se taire, que ce soit en Russie, en Allemagne, etc. On a des textes de Stanislavski où il dit qu'il a fallu éduquer les spectateurs parce qu'il y avait trop de bruit dans les salles de spectacle. Et on a gardé quelque chose que les acteurs parlent assez fort, comme s'ils avaient hérité du théâtre de rue de très tôt. Et il y a des publics qui disent « mais je ne peux pas supporter le théâtre, ça parle trop fort ». Il y avait Michel Serrault qui disait un truc très juste. Une présentatrice l'interviewait, il a dit « mais non, je ne suis pas naturel. Je suis obligé de hurler pour le 7e rang. Donc je ne peux pas être naturel.
Et le 7e rang n'est pas très loin, hein, en règle générale.
Oui.
À tous les deux d'être venus au micro d'une saison au théâtre, on se quitte avec la Calas qui fait actuellement l'objet d'une exposition à scène musicale sur l'île Seguin. Serge Saada, vous rejoignez les bandes de la fac de Paris 3 et votre association Culture du Cœur. Jean-Christophe Muris, vous prenez le chemin des Bouffes du Nord où du 7 novembre au 2 décembre, les spectateurs découvriront Jusque dans vos bras, dernier opus des Chiens de Navarre, toujours aussi caustique, toujours aussi tendre, aussi lucide et toujours aussi drôle. Vous pouvez, bien sûr, podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Élise Le, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, il est temps de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.